Podcast.com. Rencontre par Marc Zisman.
Pour ce nouveau podcast, Cobuzz.com, ce n'est pas Edouard Ferlet qui vient à Cobuzz, mais c'est Cobuzz qui vient chez Edouard Ferlet, puisque c'est lui qui nous reçoit chez lui. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Donc nous sommes ici dans une maison calme, dans un temple. Le silence règne, il y a quand même pas mal de musique, puisque nous sommes dans le salon, il y a un piano, des CD, et je pense que tout à l'heure on descendra dans la caverne dans votre studio. Vous avez publié récemment un nouvel album qui s'appelle L'écharpe d'Iris, vous avez monté un nouveau label, enfin il se passe pas mal de choses. Vous faites partie maintenant, j'allais dire, un peu des personnages incontournables de la scène jazz parisienne, française, européenne, on peut, et plus si affinité. C'est un peu le fait d'avoir un piano ici dans le salon au milieu entre la cuisine qui est ouverte un peu à l'américaine, ouais. C'est quelque chose d'essentiel, c'est un peu une sorte de poumon vital pour vous.
C'est vrai que ce piano en plus c'est une j'ai reçu ça un peu d'un mécène, parce que c'est, on le voit pas, mais c'est un Steinway D, donc j'ai la chance d'avoir ce que rêve tout pianiste, ce dont tout pianiste rêve, c'est-à-dire un des plus beaux pianos, quoi, c'est Steinway D. Et je l'ai mis dans mon salon parce que pour l'instant j'ai pas d'autre place pour le mettre.
C'est de la déco alors.
C'est un peu de la déco, oui. Et j'ai un piano droit au-dessus qui est un vieux piano droit pour où les enfants jouent. Je dirais que ce piano dans le salon c'est un peu le centre névralgique de la maison, parce que ça devient un lieu où on peut jouer un peu quand on veut sans trop se concentrer. Je veux dire, en jouant si on a envie de jouer, on joue n'importe qui joue sur ce piano. Et j'ai en bas mon piano vraiment de travail, où j'ai ma cave, où je peux me concentrer vraiment dans le silence. Mais c'est vrai qu'il y a du silence, sauf quand on joue, parce que ce piano, il envoie quand même, c'est quand même fait pour des salles de 3000 places, donc il y a quand même, ça envoie bien quand même. C'est...
Le piano, la première fois que vous avez touché un piano, vous aviez quel âge ?
Alors moi, j'ai été élevé dans une famille de musiciens, où tous mes cousins faisaient de la musique, et donc assez tôt, en fait... Je pense que mes parents ont dû me mettre quand j'avais... à partir du moment où je savais taper, c'est-à-dire peut-être à 8 mois, peut-être, ou 9 mois, je sais pas. Non, mais j'ai commencé réellement le piano vers 6-7 ans, où j'ai commencé à prendre des cours. Et surtout, parallèlement, en fait, m'amuser dessus. C'est un petit peu ce que je retrouve ces derniers temps, en fait. Ce que je veux retrouver, c'est les premiers contacts qu'on a avec le piano, l'instrument, c'est-à-dire le fait de vraiment jouer, de découvrir les sonorités. Parce que je pense qu'il y a une période, à un moment donné, quand on étudie, on n'a pas vraiment l'état d'esprit de vouloir découvrir des sonorités. On nous apprend des choses qu'on doit refaire, mais on oublie un petit peu que moi je pense qu'il faut vraiment retourner aux sources, c'est-à-dire essayer de se reposer les questions, pourquoi on fait de la musique, et de rechercher des sonorités plutôt que de retrouver. À mon avis, c'est quelque chose à trouver là-dedans, en fait.
Je crois que vous avez une formation classique à la base.
Oui, comme maintenant tous les pianistes de jazz de ma génération, j'ai toujours fait du classique, je continue à en faire. Là, pour la première fois, en fait, je vais vraiment faire des concerts. Je vais jouer du Schubert là, très bientôt. Enfin, c'est les leaders de Schubert, donc ce n'est pas des pièces très difficiles à jouer. Simplement qu'au niveau du son et de l'intention, c'est vrai que c'est assez différent du jazz. Et moi, ça me plaît vraiment de mixer comme ça tous les styles de musique, pour vraiment enlever les frontières.
Est-ce que quand on commence justement dans le classique, avec la formation qui va avec, et l'esprit souvent qui est donné avec, est-ce qu'on arrive facilement ou avec difficulté dans l'univers du jazz? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que c'est une attraction?
Non,
comment
justement.
Ça s'est passé pour vous?
Ouais, non, mais moi, j'ai commencé tout de suite par le jazz. C'est-à-dire que j'ai tout de suite voulu improviser. Donc, en fait, on va dire que j'ai commencé plutôt par le jazz et j'ai parallèlement fait du classique. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une façon d'appréhender la musique différente entre le classique et le jazz. Ne serait-ce que justement le fait de d'utiliser le piano comme un jouet, en fait, comme un jeu. Jouer vraiment du piano sans partition, sans support, et ça pour moi c'est ça l'origine justement de la musique qui se transmet par l'oreille, par un copain qui vient à côté qui te montre comment faut jouer les pièces, et ça peut marcher aussi pour le classique. Donc c'est juste une façon d'appréhender et d'apprendre la musique, à mon avis, qui est importante au tout début. Et c'est pour ça que souvent, moi je vois des pianistes classiques qui sont très très ouverts à tous les styles de musique, qui improvisent. Maintenant il y en a beaucoup, des pianistes classiques qui improvisent, mais il y en a encore d'autres, c'est vrai, qui ont un blocage, et à mon avis c'est dû à l'apprentissage, en fait, vraiment au moment où l'apprentissage s'est gravé dans leur esprit.
Et chez vous, justement, cette attirance pour l'improvisation, c'était quoi? C'était physique? C'était lié à peut-être à une rencontre musicale, à un disque, à quelque chose qui s'est passé? Ou ça s'est fait naturellement? C'était en vous? Et
ça s'est fait assez naturellement, mais c'est aussi, je pense, justement, pour faire créer mon chemin assez rapidement, parce que comme j'étais dans une famille de musiciens, j'ai notamment mon grand frère qui voulait être pianiste concertiste, donc qui a beaucoup travaillé de piano classique, et peut-être que j'ai assez rapidement voulu faire différemment et essayer de faire mon chemin de mon côté. Et donc voilà, et après il peut y avoir des déclencheurs, mais très vite j'ai voulu être un peu différent des autres. Et je pense que moi j'incite tous les jeunes pianistes qui viennent me voir, je leur dis qu'il faut essayer de composer, d'essayer de trouver son chemin, voilà, de trouver une petite façon d'être un peu original, quoi, mais tout en respectant évidemment la tradition et en l'ayant acquise surtout.
Est-ce que parallèlement à toutes ces années d'apprentissage, c'était également lié à une volonté de vouloir connaître, comprendre, maîtriser, je ne sais pas, l'histoire du jazz?
Non, je n'ai jamais cherché spécialement à savoir jouer tous les styles de piano. Moi, c'est-à-dire que on me l'a appris quand j'ai étudié à Berkeley. Ça faisait partie des cours, donc je le faisais naturellement, mais je n'ai jamais voulu... souvent, je sais qu'il y a des gens qui disaient « Oui, il faut savoir jouer comme Wynton Kelly, après comme Chick Corea, et Bangkok. » Une fois que tu sais jouer tous les styles, après, tu apprends ton style à toi. Moi, je pense que non. On démarre tout dès le début. On commence déjà à faire son style dès le début, et parallèlement, on essaie de comprendre comment jouent les autres pianistes, parce que c'est une culture énorme. Mais il y a aussi le problème du piano, qui est un instrument qui a une culture énorme et donc, il faut faire attention aussi de ne pas trop se plonger là-dedans, à la limite, parce que sinon, on s'y perd, et puis on oublie... on se perd là-dedans et on se dit moi j'existe pas, il y a tellement de choses extraordinaires qui ont été faites, moi je vais rien apporter, donc à la limite parfois je fais de la contre-culture et j'essaie de retrouver justement la naïveté du jeune garçon qui est devant son piano et qui joue des choses qui lui pense sont nouvelles mais qui en fait sont pas du tout nouvelles. En fait, c'est ça qui est...
C'est amusant parce que vous dites en fait d'abord trouver son style et ensuite éventuellement voir ce qui s'est passé jusqu'ici. Souvent parfois on a d'autres musiciens, c'est un peu l'inverse, qui disent plutôt d'ingurgiter, d'essayer de comprendre les différents styles, les différentes histoires, et de là-dedans d'essayer de trouver son propre style. Vous, votre propre style, à quel moment vous étiez conscient d'avoir quelque chose vraiment de très personnel et de pas juste être un clone de tel ou tel pianiste?
Oui, je pense dès le début, moi j'ai revu des vidéos qu'on m'avait filmées quand j'avais 7 ans et déjà je composais, j'avais une petite composition.
Ça ressemblait à quoi?
Ça ressemblait à ce que je fais maintenant, en plus simple, donc en mieux, en plus. Non, mais en fait, je me retrouve vachement encore maintenant, lorsque j'ai vu cette vidéo, j'étais vraiment étonné. C'est-à-dire que je voulais déjà écrire des petites compositions et le faire écouter aux autres. Tiens, regardez, donc aucune timidité, regardez, j'ai écrit un petit morceau très simple, avec le plaisir de vouloir partager cette musique aux autres. Et donc ça, je dis pas qu'il faut faire ça d'abord avant d'apprendre les autres, mais... Je veux dire, je pense que c'est plus facile de s'exprimer soi-même que de... Je donne souvent l'exemple, en fait, quand je donnais des cours aux petits-enfants, les parents, ils comprenaient pas trop pourquoi je leur apprenais. Je leur demandais de jouer d'abord du piano sans apprendre le solfège, Je leur dis, écoutez, votre enfant, il a appris d'abord à écrire ou à parler. C'est pas compliqué, la musique, c'est pareil. Quand on a un instrument, on a besoin de parler avec l'instrument, de jouer. Et après, une fois qu'on sait parler, on apprend à écrire ce qu'on dit, à écrire les notes, on apprend à lire les notes après, mais... Pour moi, ça me paraît tellement évident de d'abord pouvoir jouer avec le son. Et après, si on veut continuer, on apprend à écrire, à lire, si on en a besoin. Parce qu'il y a des musiciens qui n'ont pas besoin ni de lire ni de écrire. Ça dépend du travail qu'on fait dans la musique.
Vous avez évoqué le terme partage. Vous jouez souvent en groupe. Vous avez publié un album solo il n'y a pas très très longtemps. Mais on vous voit souvent plutôt en groupe. Parce que pour vous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est comme ça que vous... que vous voyez, que vous entendez votre musique, il faut de l'échange musical, comment ça se
fonctionne? Pour moi, c'est même pas que en musique, dans n'importe quel métier artistique, le partage est vital. D'ailleurs, on s'aperçoit que les artistes qui n'ont pas pu partager, soit ils se sont suicidés, soit ils vivaient très très mal. Donc, moi, je souhaite être le plus heureux possible. Donc, non, j'ai un désir de vouloir partager la musique, donc que ça soit en solo. C'est vrai que ce disque, moi, j'ai pas voulu le faire. C'est un producteur, Philippe Guilmetti, qui a insisté pour que je le fasse. Et j'ai découvert plein de choses très intéressantes en travaillant mon solo. Mais ouais, pour moi, le partage est essentiel. C'est-à-dire partager. C'est difficile à expliquer, mais en jouant avec d'autres personnes, justement, on s'extravertit. À la limite, on se motive justement à se surprendre entre nous. Et je peux le faire pareil. Moi, j'ai toujours eu le plaisir de jouer devant les gens. Pour partager ma musique. Je sais qu'il y a des pianistes qui n'aiment pas trop jouer devant les gens comme ça, ils ont besoin d'être dans des bonnes conditions, etc. Moi, c'est une façon de parler, comme si là je vous parle maintenant, je pourrais vous jouer un petit morceau, ça fait partie de mon langage, quoi.
Vous pouvez peut-être en jouer un petit morceau comme ça, on verra ce que donne le son du Steinway. Dans ce salon, donc il y a effectivement ce Steinway, mais il y a des CD. On peut peut-être regarder ce qu'il y a dans ces. Est-ce que là, cette sélection qui est là, c'est un peu au hasard?
C'est une sélection qui date un peu, parce que c'est vrai que j'achète pas mal de musique sur Internet maintenant.
Et vous téléchargez ou vous achetez les CD sur Internet?
Non, je télécharge la musique.
D'accord. Okay.
C'est vrai que j'ai jamais acheté les CD par Internet. Je les ai toujours achetés dans les magasins. Et par contre, dernièrement, je fais beaucoup de téléchargements sur iTunes.
Justement, vous qui êtes d'une génération où vous connaissez le CD, vous avez la transition, est-ce que le côté objet, justement, est-ce que c'est quelque chose, ça vous pose pas de problème, justement, déjà? On sait que certains musiciens, ou même tout simplement certains amateurs de musique, ont un peu du mal à concevoir la musique sans un support, sans une pochette, des notes de pochette à lire, un objet à tenir. Non, vous, ça vous pose...
Non, pour moi, c'est pas... On peut séparer l'objet de la musique, c'est-à-dire que c'est très plaisant d'avoir un bel objet, un beau CD, le lire, etc., mais c'est il n'y a pas besoin de ça pour écouter de la belle musique. Non, pour moi, ça, c'est un faux problème. C'est comme le problème du MP3 qui est d'une mauvaise qualité. Pour moi, tout ça, ce sont des faux problèmes. L'objectif, c'est pour nous de propager la musique au maximum. Voilà, c'est tout. Non, on ne va pas rentrer dans la discussion comme ça, mais pour moi, tout ça, c'est un peu des faux problèmes. Le fait d'avoir besoin de cette pochette, c'est toujours possible. Et je pense que le disque existera toujours. Mais c'est pas pour ça qu'il faut stopper le téléchargement, la musique numérique.
Alors là, quand on regarde un peu en vrac, il n'y a pas vraiment de classement, on dirait, non? C'est un peu...
Non, c'est un peu...
Je vois, on passe de Charles Lloyd à Jobim, à Chet Baker, à Jamal.
Ouais, c'est...
On a du Richter un peu plus loin, ouais. Avec du Pierre Entaille, on a Jean-Michel Pilk, un Britton, ouais. Et un Paul Bless. Et...
Ouais, c'est un peu tout mélangé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaie d'organiser les disques, mais après, quand je l'écoute, j'ai pas le temps de le remettre après. Donc, j'ai décidé finalement de plus jamais rien ranger.
Il y a même un Radiohead, je vois, un peu plus haut.
Radiohead,
ouais,
aussi.
Ouais. Donc, les disques qui sont là, en fait, c'est pas spécialement. C'est un peu quand vous arrivez devant, vous avez une idée de ce que vous avez envie d'écouter. Est-ce que c'est.
Et puis c'est toujours pareil. Quand je cherche un disque, je le trouve pas. Donc, du coup, j'en prends un autre et j'écoute celui que je trouve.
Vous redécouvrez parfois des disques que vous avez laissés de côté, finalement.
Ah oui, tout à fait.
Soit vous êtes déçu, soit au contraire, vous êtes agréablement surpris.
Oui, puis je retrouve aussi le moment où je l'écoutais pour la première fois, donc je retrouve des émotions aussi très intéressantes. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que même souvent je réécoute pas des musiques parce que j'ai envie d'aller de l'avant et je veux pas être nostalgique, donc je réécoute pas des vieux disques que j'ai écoutés quand j'étais jeune. Mais non, et puis je fais partager aussi à mes enfants aussi qui sont là, je m'amuse à leur faire écouter des choses très différentes et je regarde leurs sensations, comment ils réagissent par rapport à ça.
Vous écoutez quoi en ce moment, par exemple? C'est quoi les CD que vous avez sortis récemment de cette...
Alors en ce moment, qu'est-ce que c'est
de cette colonne de CD?
C'est vrai que Radiohead, j'ai écouté le dernier Radiohead. Non, en fait, je l'ai même téléchargé, le dernier Radiohead.
Vous pouvez le télécharger gratuitement.
Maintenant, je pense qu'il y a le disque qui est disponible. Ouais. Qu'est-ce que j'ai écouté aussi j'ai écouté justement du Schubert, aussi des livres de Schubert, par Schwarzkopf. Ouais, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on fait toute la journée de la musique, parfois on est un peu tranquille le soir.
Quand vous partez du bureau, c'est ça?
Voilà, exactement. Donc c'est vrai que j'en écoute à des moments un peu différents. Mais,
Vous avez des phases, comme certaines personnes, c'est-à-dire où tout à coup vous replongez dans un musicien, soit que vous avez toujours aimé, soit au contraire vous redécouvrez en écoutant que lui ou pendant des...
Ouais, tout à fait. C'est des phases justement où je joue moins. Je joue moins de piano et j'essaie de m'inspirer plus des disques et de la musique, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu le pendant, en fait. Soit je fais beaucoup de piano ou beaucoup de répétitions et j'ai plus envie d'écouter d'autres musiques, aussi exprès pour pas m'inspirer, justement, parce que ça aussi je fais attention, parce qu'il y a plein de pianistes que j'adore et je fais exprès de pas trop les écouter, parce que sinon j'ai remarqué que je les copiais après. Donc ça, volontairement, je veux pas écouter spécialement trop de Cadjarrette à un certain moment, où je sais que quand j'ai fait mon disque en solo, j'évitais d'écouter des disques en solo pour être inspiré ou désinspiré, donc d'essayer d'être le plus neutre et naïf possible.
Au-delà des musiciens que vous pouvez avoir fétiches ou de chevet, est-ce qu'il y a des disques, c'est-à-dire vraiment des instantanés de certains musiciens qui restent avec vous finalement au fil des ans? Est-ce que vous avez vraiment des albums fétiches comme ça?
Non, pas vraiment. J'essaye de... Non, c'est toujours la question, qu'est-ce que tu prendrais si tu pars sur une île déserte? Bon, je pourrais pas répondre. Je prendrais un instrument déjà, c'est sûr.
Est-ce que ce serait un piano?
Si je peux, oui. Sinon, ça serait un instrument de percussion, ça serait une guitare. J'apprendrai la guitare, donc j'apprendrai un autre instrument. Ça, y a pas de problème. Mais non, j'ai pas de. Justement, je veux éviter d'avoir des pianistes fétiches, des disques fétiches. Il y a trop de choses extraordinaires pour en sélectionner 5 ou 10. Ça, j'ai du mal à choisir.
Bon, voilà, on va descendre, puisque en bas, je crois que c'est votre studio.
Voilà, c'est là où je suis un peu plus tranquille.
D'accord.
Dans ma cave.
On va descendre. Là, on arrive, c'est un, ce qu'on peut appeler ça, un studio d'enregistrement.
Ouais, c'est là en fait où j'enregistre toutes mes maquettes avant de faire les disques. Je fais toutes les répétitions et j'enregistre pratiquement toutes mes répétitions et évidemment tous les concerts. Et pour avoir la distance après, pour pouvoir réécouter. Et comme le travail du son aussi m'intéresse beaucoup, j'ai quelques micros, des préamplis, des mots convertisseurs, et j'essaie vraiment de travailler avec ce matériel qui pour moi. Maintenant accessible par presque tout musicien, parce que c'est plus aussi cher qu'il y a 15 ans. On peut arriver à avoir du bon matériel assez facilement. Donc j'essaie de l'utiliser vraiment comme un instrument en fait.
Comment vous êtes venu à tout ce qui est technique d'enregistrement? Vous avez du matériel un petit peu quand même sophistiqué. Est-ce que vous avez demandé des conseils à des
ingénieurs du son, ingénieurs du voilà, son, ouais. c'est en bidouillant. Moi je pense que j'aime bien apprendre de cette façon-là aussi. On demande des conseils à droite à gauche, en essayant, en écoutant avec ses oreilles. On essaye ce micro, un copain te prête ce micro, tu l'essayes, est-ce que ça te plaît? Et après tu fais ton choix personnel. Pareil, il y a tellement de différents micros et préamplis qu'après il faut faire son choix personnel.
Vouloir enregistrer comme ça à chaque fois les répétitions, tout ça, pour les réécouter, pour avoir plus de recul ensuite, c'est quoi l'idée derrière?
L'idée d'abord c'est on joue différemment quand on sait qu'on est enregistré, donc comme quand on sait qu'on est enregistré, qu'on parle différemment, donc... Donc ça met une petite pression supplémentaire pour se dire tiens, chaque note que je dois jouer doit être vraiment doit venir vraiment du fond du cœur et doit pas être jetée comme ça n'importe comment. Et donc voilà, l'enregistrement même en répétition donne un côté un peu plus attentif à ce qu'on fait. Donc première chose, et deuxième chose, réécouter après les morceaux qu'on fait et avoir de la distance en se disant tiens, parce que je pense que quand on joue et qu'on est à fond dans ce qu'on fait, on a du mal à avoir du recul au moment où on le fait. Et donc c'est intéressant de réécouter après, en fait.
Quand vous composez, ça se passe plutôt ici, dans cette pièce-là? Il n'y a pas vraiment d'endroit comme
plutôt ici, ouais. Plutôt ici, parce que là, je suis tranquille. Je suis sous la terre.
Et une petite fenêtre, quand même, pour préciser.
Voilà, une petite fenêtre pour voir un peu le ciel.
Avec un peu de gazon devant. La composition, l'écriture, c'est quelque chose auquel vous êtes venu assez rapidement dans votre parcours?
Ouais, tout à fait. Comme je vous ai dit, vers 7 ans, j'ai commencé à faire du piano en composant, en fait, parce que c'est vrai que c'est un gros mot, composer, mais bon, en fait, composer, c'est uniquement essayer de sortir des choses de soi, donc c'est pas non plus un terme savant. Moi, j'incite à tous mes amis, tous mes collègues qui composent pas, d'essayer, quoi. Et c'est vrai que c'est juste le premier pas, de se dire, tiens, je vais essayer d'écrire un petit truc, et on sait que ça peut débloquer beaucoup de choses, quoi, dans l'interprétation aussi, c'est-à-dire que moi, j'adore aussi jouer les compositions des autres. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est un passage pour moi très important, en tout cas, pour chaque artiste de composer. C'est revient vraiment aux sources. Bon, mais je pense qu'il y en a qui arrivent à le faire avec l'interprétation.
C'est un peu ce que j'avais vous demandé.
Oui, bien sûr. Ça, c'est pour moi, c'est plus difficile. Mais donc, en fait, la composition m'aide à essayer de chercher des sonorités, des façons de jouer différentes.
Est-ce que ce serait pas un peu l'inverse de certains musiciens qui, au contraire, eux, souvent, arrivent à... Enfin, le terme, ça serait pas vraiment le terme de composer, mais à n'axer leur style que sur la relecture de standards, qui ont parfois du mal, justement, à composer purement? Ou est-ce que ce serait pas l'inverse, finalement? C'est que vous vous êtes trouvé avant tout dans la composition et que vous êtes plus dans une phase où peut-être que vous vous posez plus de questions quand vous vous retrouvez face à des relectures de standards. C'est différent.
C'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu, on peut déterminer des musiciens qui sont plus sur l'interprétation de standards et d'autres plus sur la composition. En tout cas par période. Je parlais tout à l'heure de Cadjaret, c'est vrai qu'il a composé pendant un certain moment, mais après il a pu s'interpréter des standards. Bon, c'est par période, ça n'empêche pas que ce soit un excellent compositeur, mais je pense que c'est des périodes. Moi, peut-être que j'aurai cette période là à un moment donné d'arrêter de composer et de faire que l'interprétation, soit des standards, soit d'autres pièces. Mais alors la question de base, c'était quoi déjà ?
Non, c'était justement parce que finalement, vous, c'est pas l'inverse de certains musiciens. C'est-à-dire que vous vous trouvez avant tout dans la composition et que finalement, justement, c'est ce que vous dites. Peut-être qu'il y a un moment
Mais
carrière,
je me trouve aussi dans l'interprétation d'autres compositions parce que le voilà. Donc, mais j'ai toujours joué des standards et c'est vrai que si j'avais quelque chose à dire par rapport aux standards, c'est.
C'est pas quelque chose dans lequel vous naturellement, enfin par lequel vous êtes naturellement attiré ou. Vous avez l'impression d'être bridé finalement un peu d'une certaine manière quand vous vous retrouvez face à une partition écrite par quelqu'un d'autre ?
Non, mais voilà, ce que je voulais faire comme comparaison, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence pour moi de jouer des compositions et de jouer des standards. Parce que les standards ont été tellement joués qu'on a toujours envie de les jouer différemment ou essayer de faire quelque chose avec ces standards. Et c'est peut-être pas l'objectif en fait. L'objectif, c'est de le jouer comme on a envie de le jouer. Mais c'est ça le problème, c'est d'avoir toute cette culture, d'avoir entendu tous ces standards et de dire tiens, ça a déjà été fait, ça devient très compliqué dans la tête. Et en revanche, c'est vrai que je me suis souvent posé la question d'essayer de jouer mes compositions comme si c'était un standard. Et j'ai constaté que quand je joue mes compositions, je les interprète pas assez en fait. Je les joue plus comme une composition, alors je devrais prendre du recul et les interpréter plus comme si c'était un standard ou une composition de quelqu'un d'autre. Et ça m'arrive souvent de m'investir plus dans l'interprétation d'autres compositions de mes collègues plutôt que les miennes. Ça, c'est un peu plus technique, mais c'est un truc assez intéressant que je développe et j'essaierai d'approfondir un de ces quatre.
Comment se passe, pour revenir sur l'aspect partage et échange avec d'autres musiciens, quand vous préparez un nouvel album, par exemple, avec d'autres musiciens, est-ce que vous préparez énormément à l'avance ? Est-ce que beaucoup de choses se passent durant l'enregistrement, en studio ? Est-ce qu'il n'y a pas de règles en fonction des albums, peut-être ? Ou même des musiciens avec lesquels vous travaillez ?
En ce moment, je suis dans une phase où je pense qu'en tout cas, pour préparer un studio, pour faire un studio, il y a la préparation. Plus on a de préparation, mieux c'est, mais la préparation, ça ne veut pas dire préparer note par note ce qu'on va jouer en séance de studio. Justement, moi, il me semble vraiment qu'il faut éviter ce raisonnement de se dire tiens, on va répéter pour jouer exactement, pour préparer exactement ce qu'on va faire en studio. C'est pas du tout comme ça que je le vois, moi. En tout cas, c'est préparer les morceaux pour justement être prêt à tout au moment du studio. Et surtout ne pas rejouer ce qu'on a fait en répétition en studio. Ne pas rejouer, ça veut surtout dire dans un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on pourrait rejouer les thèmes préparés, mais se dire que quand on est en studio, on les joue comme si c'était la première fois. Ça, pour moi, c'est très important parce que moi, j'entends souvent des enregistrements où on sait que ça a été tellement préparé que finalement, la composition est belle, c'est bien joué, mais en fait, on sent qu'il n'y a pas de magie qui s'est passée. On sait bien qu'en studio, c'est difficile de retrouver la magie parce qu'il y a la pression, il n'y a que 2 ou 3 jours d'enregistrement, etc. Il y a du temps parce qu'il y a des problèmes techniques. Et moi, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que quand on arrive en studio, on est prêt à tout, on est ouvert à tout. Donc on est sécurisé parce qu'on a bien travaillé les morceaux, on les connaît par cœur, etc. Mais on peut tout d'un coup dire, tiens, on va jouer à un autre tempo, on va jouer dans une autre tonalité, et tout d'un coup, ça va proposer des choses. Ça c'est.
Et quand vous préparez justement un nouvel album, est-ce que, sans peut-être parler de concept à chaque fois, est-ce qu'il y a vraiment une idée ? Est-ce qu'il y a vraiment porter une attention à qu'est-ce qui va être au début, au milieu, à la fin, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, quels sont je veux, etc. Qu'est-ce que ça représente un album pour vous ?
Oui, c'est sûr que ça commence déjà par chaque morceau doit représenter une image en fait. Pour moi,
est-ce que initialement, antérieurement, il y a déjà une idée à la base ? Vous savez que vous avez un nouveau disque, est-ce que vous voulez que cet album représente une idée ? Ou pour vous, ça doit juste être un instantané de vous à la période de l'enregistrement?
C'est un instantané, mais ça veut dire qu'en fait ça représente une série de morceaux, ça représente un moment, comment dire, c'est plutôt, il y a une relation entre tous les morceaux, c'est-à-dire que je vais vouloir, l'écharpe d'Iris, le dernier morceau que j'ai, dernier disque que j'ai sorti, je voulais faire une musique qui était plus, plus joyeuse, plus facile d'écoute, plus, où il y a plus de jouage, où il y a moins de choses réfléchies, donc il y a un petit concept derrière tout ça, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas voulu rentrer dans des concepts, dans des disques conceptuels, c'est-à-dire ce que fait par exemple Stéphane Oliva lorsqu'il joue la musique d'Hermann, par exemple. Là, c'est vraiment, il y a un concept là-dedans. Et moi, c'est vrai, jusqu'à présent, j'ai jamais voulu, pour l'instant, rentrer là-dedans et utiliser les disques pour m'exprimer simplement sans support à côté. Mais c'est vrai que c'est voilà, j'ai pas réellement fait ça encore pour l'instant.
Et alors donc, vous avez créé il y a quelques mois un label.
Ouais.
C'est quoi l'idée derrière? C'est la volonté? Est-ce que c'est...
Bah, la volonté, c'est encore une fois, c'est le partage. C'est-à-dire que c'est un label, c'est pas un label d'artiste. C'est-à-dire que j'ai pas voulu créer un label pour faire que mes disques. Et j'ai voulu créer ce label-là pour justement, dans une période actuelle qui est très très difficile, proposer aux musiciens que je rencontre, qu'on ait plein de musique ou plein de projets qui peuvent pas réaliser parce qu'il n'y a pas de maison de disques derrière, il n'y a pas de producteurs qui veulent les accueillir et les aider. Et donc moi, je souhaite redonner une énergie justement à la créativité en fait. Et je refuse de me dire non, on peut pas faire ce projet-là parce qu'il n'y a pas de producteur. Donc maintenant, il y a plein de musiciens qui cherchent un producteur pour faire le projet alors que... Du coup, ça les bloque, parce qu'il y a maintenant, il y a très peu de gens qui peuvent prendre le risque de produire des artistes. Donc, j'essaye de trouver des solutions. Alors, je suis encore en train d'essayer de trouver des solutions viables, parce que pour l'instant, je suis en plein développement, donc c'est pas, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, il faut que je trouve des solutions marketing, etc. Donc, heureusement, j'ai un associé qui lui fait du marketing et m'aide beaucoup dans ces raisonnements-là. Mais c'est surtout, avant tout, voilà, on a un projet dans la tête, justement un projet construit, que ça soit avec conceptuel ou pas. Mais aller jusqu'au bout de ce projet-là et pouvoir le faire concrètement. Alors, soit enregistrer ici dans mon local, par exemple, s'il n'y a pas les budgets d'aller en studio. Enfin, en tout cas, ne pas s'arrêter parce qu'il y a un problème dans l'industrie du disque. Ça, c'est, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est contre la vie d'un artiste, quoi. C'est inconcevable.
Ce label est né presque de ce qu'on appelle la crise du disque en ce moment et de la situation, que de la volonté de vouloir faire un modèle ou, je sais pas, un héritier d'un label qui serait mythique pour vous dans l'histoire du jazz.
Alors, encore une fois, oui, j'ai pas voulu faire ce label-là pour copier un label mythique, par exemple ECM ou choses comme ça. Non, c'était plutôt, oui, c'est vrai que c'est plutôt à cause de la crise du disque qu'on peut plus maintenant faire de disques facilement et les proposer aux gens parce que. Il y a tellement de musiciens qui enregistrent leurs disques justement dans leur cave, mais qu'est-ce qu'ils en font de ce disque-là? Ils les donnent aux copains et moi pareil, j'aimerais bien aller plus loin, de donner les disques à des copains, vraiment que ça soit officialisé et respecter son métier et que le disque soit défendu commercialement. Quoi. Pour moi, il y a un lien justement entre le côté commercial et la musique. C'est une certaine reconnaissance et il faut admettre que moi, je suis honnête avec moi-même, j'ai besoin de ça pour continuer mon métier, sinon c'est pas possible. Donc ça passe automatiquement par une chaîne commerciale, quoi. Et ça, il faut l'accepter et j'essaye moi de comprendre ça, et ça m'aide dans mon travail d'artiste. Il y a les gens qui me disent souvent ça te bloque pas dans ton truc artistique. Non, au contraire, pour moi c'est un lien. C'est au contraire, ça m'aide. J'arrive vraiment à lier les deux.
Toujours pour poursuivre sur l'aspect de partage, vous avez travaillé, enfin joué avec des voix, donc pas uniquement des instrumentistes, que ce soit Mark Murphy, et je crois aussi avec Lambert Wilson, enfin avec d'autres. Comment ça se passe? Comment vous voyez justement votre approche artistique lorsque le jeu de votre piano se retrouve au corps à corps avec un instrument qui est la voix?
Alors ça, c'est un petit peu difficile, c'est vrai, parce que je me suis toujours dit que si des personnes m'appelaient pour les accompagner, c'est que ils savaient qui ils appelaient, c'est-à-dire quelqu'un qui a une façon de jouer un petit peu particulière et pas spécialement accompagnateur qui se tait et qui fait ce qu'on lui dit de faire. Et en même temps, je veux aussi les servir, c'est-à-dire que faire qu'ils soient à l'aise sur ce que je leur propose comme accompagnement. Donc voilà, c'est un travail pareil, de confiance et arriver à les servir, mais en même temps leur proposer quelque chose d'un petit peu intéressant, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre derrière leur voix, c'est-à-dire un accompagnement, qui s'entend à peine, quoi. Donc voilà, c'est très difficile à trouver la justesse justement dans l'accompagnement, c'est pas facile. Je me pose encore beaucoup de questions sur la façon d'accompagner pour servir l'artiste, en fait.
Parce que la voix a un instrument tellement, j'allais dire... envoûtant, mais une force d'attraction telle que vous avez l'impression que finalement il prend le dessus éventuellement sur l'univers musical que vous créez avec. Il y a une sorte de rapport de force dans ces cas-là?
Oui, c'est pas tellement un rapport de force au niveau de la voix, mais c'est surtout de l'artiste. Je pense que c'est quand un chanteur m'appelle pour l'accompagner, il faut aussi que je le serve aussi. Donc c'est pas tellement. Donc c'est en même temps un travail de commande, mais en même temps un travail où je me permets de dire bon, bah, si tu m'appelles, je vais aussi te proposer des choses qui vont peut-être te faire changer un peu d'avis sur ta façon de chanter. Donc c'est pas tant par rapport à la voix, mais il y a aussi le fait que souvent les chanteurs n'ont pas la connaissance harmonique et rythmique qu'on a nous, instrumentistes, donc ils peuvent être facilement perdus aussi quand on fait des accompagnements trop compliqués. Donc voilà, faut pas trop jouer là-dessus, parce que l'objectif c'est pas de les perdre, et voilà, c'est d'être vraiment, vraiment ensemble. Mais ça c'est très intéressant, parce qu'encore une fois c'est du partage et qui est difficile à réaliser, parce que si on essaie d'être un petit peu d'essayer des choses un peu extrémistes, quoi. C'est très intéressant.
Vous seriez intéressé, vous, justement, de monter un projet complètement, que ce soit un disque, pourquoi pas, avec justement un chanteur, et de monter ça vraiment sur un, pas juste en tant qu'accompagnement, mais vraiment qu'il y ait de la création, de la composition, comme ça, sur un album entier, avec une voix?
Ouais, ça me plairait tout à fait, mais il faudrait que ça soit.
Est-ce qu'il y a des voix, justement, qui vous intriguent, qui vous envoûtent assez pour avoir cette idée, même que ça soit ou non réalisable?
Bah pour l'instant, j'ai pas trouvé encore de voix, en tout cas de personne qui serait capable de s'associer avec moi comme si c'était un instrumentiste. Comme ce que je fais avec des musiciens comme Jean-Philippe Véret, où on est vraiment associés et on arrive à s'exprimer tous les deux en symbiose. Voilà, il y a toujours un petit peu ce rapport entre le chanteur qui t'appelle pour faire quelque chose et tu dois quand même l'accompagner quand même. Donc j'ai pas encore trouvé ça, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Ouais, ça me plairait de faire ça.
Est-ce qu'il y a quand même quelques projets déjà prévus pour votre label?
Alors donc là, il y a le Echoes of Spring qui est sorti la semaine dernière, qui est un disque avec François Rollin et Stéphane Oliva, qui retrace le piano strad des années 30 façon un peu modernisée, donc avec des superbes arrangements qu'ils ont faits, et avec des passages justement un petit peu assez ouverts. Et pour moi, c'est un projet très ambitieux et qui a suscité un petit peu la critique, parce que évidemment les gens qui aiment que la musique des années 30 ne vont pas aimer ce disque là et les gens qui aiment le free ne vont pas aimer ce disque là parce que ça reprend des thèmes des années 30. Donc voilà, ce genre de projet, moi, me plaise beaucoup. Et donc voilà, je parlais du trio de Jean-Philippe Véret qu'on va enregistrer dans un mois et qui sortira au mois de septembre. Ça aussi, c'est quelque chose humainement très fort, parce qu'on a déjà fait 3 disques en France, un au Japon et un DVD, et là on reprend ce trio là 2 ans après s'être arrêté. Et on a commencé à répéter là, et je suis vraiment très content du coup d'avoir cet outil de label pour pouvoir sortir ce disque avec le trio, puisqu'on n'avait personne. On avait jusqu'à présent Philippe Guilmetti qui n'a plus sketch ni discographe avec qui il travaillait. Et voilà, ça nous permet justement de faire ce qu'on veut avec les outils qu'on a, parce qu'on a des gens qui nous soutiennent. Moi, avec ce label là, j'ai quand même pas mal de soutien de la part des organismes, que ce soit l'ADAMI, MFA, FCM ou l'SPPF, sans qui on ne pourrait pas vivre, évidemment. Bon, l'objectif, c'est d'y arriver tout seul, être indépendant, mais pour l'instant, c'est impossible si on veut faire tout dans les règles, c'est-à-dire payer les musiciens, payer le studio et tout ça. Mais voilà, donc les projets, c'est ça. D'autres projets qui sont en cours, donc je ne vais pas trop en parler encore, mais voilà. Et je veux aussi, dans ce label-là, ne pas faire que du jazz acoustique. Je suis aussi là sur justement des productions plus dans l'esprit de Radiohead, plus électro. Donc voilà, j'aimerais ne pas trop cataloguer justement le label dans un style, et ça, je sais pas si c'est faisable, parce que souvent les labels, ils ont un style et c'est peut-être compliqué d'avoir des directions artistiques un peu différentes avec le lien quand même du label. Donc ça, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment.
Vous passez du solo au trio, au quartet. Est-ce qu'il y a une configuration dans laquelle vous vous sentez
mieux,
ou justement c'est le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre qui pour vous est un peu vital? Et
En ce qui concerne le label ou...
Non, enfin, vous.
Ah. Non, moi, ce qui me plaît quand même, c'est les instrumentations atypiques. C'est-à-dire, voilà, ce qui est le cas de Echoes of Spring. Enfin, bon, je joue pas là-dedans, mais il y a 2 pianos, sax, clarinette, contrebasse, ou alors un disque que j'ai fait qui s'appelle Plume, où il y a contrebasse, clarinette, piano, ou bien l'écharpe d'iris.
Avec un violoncelle.
Voilà. Donc c'est vrai que ça me plaît d'avoir une instrumentation atypique, parce que du coup ça pousse à écrire différemment et ça cloisonne pas le groupe dans un style. Parce que c'est vrai que si on fait un quintet avec sax, trompette, basse, batterie, piano, tout de suite c'est connoté jazz, donc c'est très difficile de s'en sortir. Et après, si on essaie de s'en sortir, c'est trop forcé, donc c'est trop bon. Donc je pense que l'instrumentation est assez, pour moi, ça me plaît pas mal de trouver des projets avec une instrumentation différente qui permet de jouer différents styles de musique. Voilà, mais c'est évident que par contre ça va être l'instrumentiste aussi qui va primer. C'est-à-dire que je vais je vais aussi choisir un instrument parce que l'instrumentiste me plaît. Donc c'est pas non plus que le, je suis pas arrangeur en disant ça, je vais pas choisir tiens j'ai un pipeau et puis un tuba et puis on va, non, c'est aussi les rencontres de personnalités qui me font faire des disques.
Ah, donc ici aussi il y a un piano, hein, on peut peut-être comparer avec
voilà,
le...
C'est un piano plus petit, c'est un Yamaha C3, et un piano très stable. Ici, c'est vrai que quand je suis sur le steno et là-haut, je peux difficilement faire des choses mécaniques et techniques. Donc ici, souvent, je fais un peu de choses parfois pour délier un peu les doigts, mais puis après, je monte là-haut pour vraiment faire de la poésie si je peux.
Les claviers électriques, je sais pas, orgue ou autre, c'est des choses
ça,
qui m'amusent.
Oui, c'est le moment pour l'instant, ça m'amuse, mais c'est vrai que quand on a un instrument comme ça, quand on a vraiment des superbes instruments, j'ai un petit peu du mal à me mettre au synthé ou même au Fender, instrument que j'adore, mais je m'y mettrai un jour quand j'en aurai un chez moi et quand je pourrai vraiment travailler, parce que je peux pas, voilà. Donc parfois on me demande de jouer au Fender, je dis non, j'ai pas l'habitude, donc j'ai pas spécialement envie de jouer du Fender, donc voilà. Y a pas mal de pianistes qui s'y ont mis, comme Pierre de Bettman par exemple, qui vraiment a pris le temps de travailler l'instrument, etc. Mais là je peux pas, j'ai trop de plaisir pour l'instant à jouer sur des pianos acoustiques. Pour changer, mais ça viendra sûrement, ça viendra peut-être.
Pour revenir à ce que vous avez évoqué avant de jouer, sur pour vous cet intérêt dans l'atypisme de certaines formations, de configurations, etc., comment vous voyez en tant que vos chers confrères, mais même tout simplement en tant que mélomane, en tant qu'auditeur, quand certains musiciens, on peut reprendre l'exemple de Jarrett, qui finalement sur la durée, même sur des décennies entières, vont conserver parfois les mêmes configurations, voire les mêmes musiciens, dans l'espèce pour Jarrett, son trio ses albums ou ses concerts solo, est-ce que c'est quelque chose qui vous avez du mal à comprendre, ou enfin dans lequel vous ne vous reconnaissez pas, comment vous voyez cette démarche qui est un peu à l'opposé finalement de la vôtre?
Je sais pas comment répondre à ça. C'est un musicien extraordinaire, c'est vrai qu'il reste dans cette formation. Ouais, ça m'aurait intéressé de le voir peut-être dans d'autres contextes un petit peu plus atypiques, mais non, je ne me suis pas posé la question de je ne me sens pas
Vous n'êtes pas touché par ce genre de démarche ou ce genre de vision de...
Je ne pense pas que c'est une démarche volontaire de sa part de jouer que en trio. Enfin, je pense que c'est naturel chez lui, c'est son langage. Il parle cette langue, il parle la langue du trio, voilà, il n'a pas envie de parler une autre langue. Moi, j'ai envie de parler différentes langues, de partager ça avec d'autres musiciens, mais non, je peux pas, j'aimais pas de critique par rapport à ça, non. Et pareil, il y a plein de pianistes qui jouent toujours dans cette formation-là, des pianistes qui sont plus proches de moi, de ma génération, ou des pianistes français, et je comprends tout à fait. Je pense que oui, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est de le faire de façon très personnelle, quoi, de façon honnête. Voilà, c'est ça. C'est ça qui compte pour moi, c'est de le faire vraiment avec ce qu'on a dans le cœur, honnêtement. Et après, tous les moyens sont bons pour s'exprimer. Non, je fais pas de critique par rapport à ça.
Sur le bord du piano, là, il y a une partition des variations Goldberg. C'est une sorte de petit poumon d'oxygène dans un coin du piano.
C'est vrai que les pièces de Bach, il y a beaucoup de pianistes de jazz qui jouent du Bach, parce que c'est, je pense, une des premières raisons, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications sur la façon de jouer Bach. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamique, ni de très peu d'articulation, ce qui nous permet de nous d'interpréter un peu plus personnellement, donc de jouer les choses staccato. On ne sait jamais s'il faut les jouer liées ou staccato, s'il faut jouer fort au piano, c'est pas marqué. Donc ça nous laisse une marge. Le fait aussi, la deuxième raison, c'est que c'est des pièces courtes, donc c'est facile à jouer. Voilà, il n'y a pas besoin de se mettre dans un état particulier. Si on va jouer une sonate de Prokofiev, par exemple, ça ne se joue pas comme ça. Il faut se mettre dans un état, il faut techniquement aussi être beaucoup plus près. Voilà, donc Et puis c'est vrai que c'est aussi une source d'inspiration pour moi. Voilà. Moi ça délie aussi les doigts, donc moi je préfère faire ça que travailler mes gammes. Mais voilà, je me suis aussi aperçu qu'il ne fallait, fallait pas jouer Bach pour se délier les doigts. Et à chaque fois qu'on joue, se le faire avec musicalité, sinon ça ne sert absolument à rien. Mais voilà, c'est tout à fait ça, c'est une petite bouffée d'oxygène dans le travail. Quand il y a un réel manque d'inspiration, on ouvre la partition.
Vous voyez de quel œil quand des musiciens, on va dire, étiquetés jazz, justement, essayent de briser les murs ou de s'aventurer en terre classique. Je pense à Guillaume de Chassy récemment, ou même plus anciennement Bill Evans, reprenant des pièces classiques. C'est des choses qui vous touchent, qui vous semblent pas toujours.
Oui, c'est toujours complexe, difficile, ouais. Justement. Alors moi, je sais que maintenant, j'ai plein de collègues, comme que ce soit Guillaume, ou voilà, qui adorent le classique, ont une culture classique aussi, parce qu'ils en écoutent beaucoup. Mais après, pour moi, c'est difficile de jouer des pièces classiques façon jazz. Mmh. Pour moi, c'est très délicat. C'est toujours pareil. C'est utiliser un concept pour.
C'est faire un gimmick pour vous, d'une certaine manière, parfois. Même s'il peut être parfois bien fait et vous plaire.
Oui, ça dépend comment c'est fait. C'est très personnel, quoi. C'est très personnel. Mais jusqu'à présent, ce que j'ai entendu, pas de Guillaume, mais c'est vrai que souvent, quand j'entends des pièces classiques qui sont jouées à la jazz, j'aime pas du tout, a priori, parce que. Voilà, et pourquoi on ne ferait pas le contraire? Pourquoi on ne jouerait pas des pièces à la jazz en classique? Bon, je ne sais pas, bon. Mais non, a priori, j'ai pour l'instant pas été spécialement séduit par des adaptations classiques des pièces jazz. En tout cas, quand c'est défini, je sais que Joachim Kuhn, lui, a fait des pièces justement sur Bach, mais qui n'ont absolument rien à voir. Enfin, s'il ne l'avait pas dit, on ne s'en serait pas aperçu. Là, par contre, je trouve ça intéressant quand on ne s'en aperçoit pas, voilà, quand c'est vraiment une source d'inspiration, mais pas directe. Ça, je trouve ça très intéressant. Et moi, ça me plairait, par exemple, de travailler sur des projets comme ça. Si vraiment je devais faire un disque conceptuel ou un projet conceptuel, ça serait plutôt de cet ordre-là, c'est-à-dire dans l'inconscient. Voilà, utiliser Bach dans l'inconscient et pas l'utiliser sous prétexte que ça sera vendeur ou, par exemple.
Des projets pour les mois à venir, tant au niveau de du label, bon, vous en avez parlé, mais personnellement.
Oui, j'ai le projet justement de continuer l'écharpe des Riz, c'est-à-dire ce groupe avec ces trois musiciens que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça se fait pas beaucoup de continuer l'aventure avec un groupe. La mode, c'est plutôt on fait un projet, puis l'année d'après on fait un projet avec d'autres musiciens, l'année d'après avec d'autres musiciens. Bon, quand ça se passe bien avec un groupe, il faut continuer. Et souvent quand on fait un disque, c'est avant d'avoir fait des tournées, donc le groupe n'est pas rodé. Une fois qu'on a fait les tournées, voilà, il faut casser le groupe et faire un autre projet. Bon. Donc, bon, un de mes projets, c'est d'essayer de continuer à faire un deuxième album avec la même formation. Et j'ai une idée de projet qui n'est pas encore complètement aboutie. Ça s'appelle Double Mixte. C'est en fait deux hommes, deux femmes qui jouent ensemble. Et j'avais débuté un petit peu ce projet avec R.L. Besson et Jeanne Adède et Jean-Philippe Viré. On avait fait quelques concerts. Et voilà, je vais essayer de réfléchir un peu à une formation comme ça, parce que j'avais mis ça aussi dans la proposition de artistique de mon label. C'est bon, ça, du coup là, ça a vraiment un côté un peu marketing, mais c'est sincère. C'est développer le jazz au féminin, parce que en ce moment je pense que depuis 10 ans il y a vraiment beaucoup de filles et de femmes qui font du jazz et qui sont maintenant beaucoup mieux insérées dans la communauté de jazz, qui est quand même assez machiste. Et pour moi, il y a une réelle sensibilité féminine qui est indéniable. Alors, je sais qu'elles n'aiment pas ça en général quand on parle de jazz féminin.
Aimez-moi pour ce que je suis, mais pas pour le fait que je suis.
Voilà, femme, voilà, exactement. Mais voilà, donc moi, j'aimerais bien, un de ces quatre, développer un petit peu ça au sein du label et puis dans mes projets. Donc ça, c'est aussi une idée que j'ai de côté.
Bien, écoutez, bonne chance pour tous ces projets, puis à bientôt sans doute. Merci.
Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Thank you.
Marc Zisman.